bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts qui fait suite à la journée d'études qui s'intitule La construction de l'objet de recherche durant la thèse et qui s'est tenue à Besançon en novembre 2021 à l'UFR STAPS. En tant que membre du comité d'organisation, en fait, nous avons souhaité finaliser cette journée par quelques podcasts qui permettaient de diffuser, de partager ces travaux qui se sont déroulés dans le cadre de cette journée. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Valentin pour qu'il puisse se présenter.
Merci Hugo. Alors merci, avant de commencer, juste je te remercie Hugo. Je remercie tout le comité d'organisation déjà pour les journées auxquelles j'ai participé, mais également pour ce podcast que je trouve super, super intéressant et super pertinent pour pouvoir s'exprimer. Du coup, donc moi c'est Valentin Pradeloup. J'ai débuté ma thèse du coup en 2019. L'année de soutenance prévue, j'espère, c'est cette année 2022, en fin d'année. Et au niveau de ma formation, elle est entièrement en sciences du langage parce que j'ai fait une licence en sciences du langage, puis un master de sciences du langage et de recherche en sciences du langage, et les deux à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc logiquement, ma discipline scientifique, c'est la linguistique et les sciences du langage, et plus particulièrement, du coup, l'analyse de discours, la linguistique du texte et un petit peu les sciences de l'information et de la communication, puisque j'applique l'analyse de discours à la presse francophone.
Et ok, monsieur, très bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur finalement pourquoi avoir choisi ce sujet plus particulièrement? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou est-ce que on te l'a imposé ou est-ce que ça s'est fait un peu dans les deux sens? Est-ce que tu es financé? Dans quelles conditions finalement réalise cette thèse concrètement?
Alors, ma thèse, donc du coup, rapidement, l'intitulé de ma thèse, c'est « La protéiformité de l'éditorial dans l'espace francophone, études croisées entre presse roumaine et presse québécoise ». Donc c'est un sujet, en fait, dans lequel j'essaie d'étudier la protéiformité, ce que j'appelle la protéiformité, c'est-à-dire, en fait, les variétés de formes et de caractéristiques du genre de l'éditorial en francophonie. Et c'est un sujet qui est personnel. Il vient d'un intérêt en fait personnel pour le sujet général de la francophonie et des manifestations des textes en francophonie dans divers espaces. Et en fait, ce sujet il vient de mon mémoire de recherche en fait de master dans lequel j'avais étudié une revue francophone en Roumanie et dans laquelle en fait on trouve des éditoriaux qui vont s'écarter un petit peu des définitions qu'on connaît. Donc c'est un sujet qui vient d'un intérêt personnel et qui est qui trouve ses origines en fait dans mon master et dans mon mémoire de recherche. Et c'est un sujet qui est plutôt personnel au début, mais qui a été porté un petit peu, comment dire, collectivement avec l'aval de mes deux directeurs de thèse. Donc l'origine est plutôt personnelle, le développement se fait évidemment avec mes directeurs. Ensuite, au niveau du financement, alors malheureusement, je bénéficie d'aucun financement dans le cadre de ma thèse de type contrat doctoral, mais à côté du doctorat, je suis enseignant vacataire à l'université, au département des sciences du langage, et j'ai également plusieurs contrats de cours particuliers qui me permettent de subvenir à mes besoins dans un premier temps et de mener à bien l'écriture de ma thèse dans un second temps.
Très bien. Et j'avais une question peut-être un peu en aparté. Qu'est-ce qui t'a mené finalement au monde de la recherche? Est-ce que ça s'est fait quel a été finalement le moment où tu as pris cette décision? Est-ce que ça t'est venu plutôt en master ou dès le début? Qu'est-ce qui t'a mené finalement sur le plan personnel?
Alors dès le début de ma licence, je me suis beaucoup intéressé, alors ça a été pas un coup de cœur mais presque hein, pour la linguistique, ça a été vraiment une matière qui m'a beaucoup intéressé. Je m'y suis intéressé dans un sens en recevant les informations pendant la licence et à la fin de ma licence pour le choix du master, il a fallu faire donc un choix et ce master il était clairement tourné vers la recherche. Donc ça a été un choix vraiment en passant de la licence au master et dans l'intérêt que je portais à la linguistique. Mais l'intérêt pour la recherche en elle-même en fait il s'est construit ensuite pendant le master. Hein, c'est vraiment... Au début, ça a été un choix parce que c'était un master qui me plaisait de prime abord. Et en étudiant la recherche, je me suis rendu compte que voilà, ça me correspondait. Ça s'est fait, on va dire, assez progressivement.
D'accord, c'est super. Donc finalement, qu'est-ce qui t'a poussé là aujourd'hui dans le cadre de cette thèse qui a quand même bien avancé depuis cette époque? Qu'est-ce qui t'a poussé à candidater à cette journée jeune chercheur? Qu'est-ce qui t'a motivé? Voilà.
Alors, il y a deux raisons, en fait, on va dire majoritaires. La première, c'est quand j'ai lu l'argumentaire de la journée, j'ai senti une proximité théorique avec ce sur quoi je travaille. Parce que j'ai vu que l'objectif, c'était de discuter, bon, la construction d'objets de recherche, assez logiquement, mais avec un axe que vous présentiez, notamment sur les difficultés rencontrées. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce que dans la construction, notamment du corpus, je pense que je vais avoir l'occasion d'en parler, ça m'a beaucoup, enfin, ça m'a rappelé mes travaux, donc je me suis dit que ce serait pertinent de candidater, hein, pour venir exposer mon expérience. Ça en premier. Dans un second temps, c'est l'ambition interdisciplinaire du colloque aussi qui m'a intéressé, parce que j'étais très intéressé de connaître des expériences, des difficultés, des constructions d'objets de recherche qui venaient d'autres, comment dire, disciplines. Et ça a été le cas avec les sciences de l'éducation, il y a eu de la sociologie, de l'épistémologie, etc. Donc je ne me suis pas trompé.
Oui, et finalement, si je ne me trompe pas, puisque ayant été présent cette journée, ayant écouté tous les participants, on voit bien que peu importe les disciplines, le chercheur se retrouve confronté globalement à des problématiques qui sont similaires. Et on a bien vu effectivement tous ces croisements qu'il pouvait y avoir. Pour rentrer dans le vif du sujet, dans ton sujet de thèse, dans cette démarche de construction, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces débuts de la recherche, les pistes que tu as explorées, comment tu as recueilli les données, creusé dans la littérature existante pour finalement identifier ce sur quoi tu travailles aujourd'hui?
Alors, le début de ma recherche, du coup, comme j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avant, il est en lien direct avec l'écriture de mon mémoire de recherche de master, hein, parce que dans celui-là, je traitais d'éditoriaux dans une revue de Roumanie, comme j'ai dit, des éditoriaux qui s'éloignaient des normes d'écriture. Donc, les pistes majoritaires pour mon travail de thèse basées sur ce mémoire, c'était les suivantes. D'abord, je voulais précisément définir ce qu'est un éditorial. Le genre de l'éditorial dans le but d'en étudier les proximités, finalement ou non, hein, avec les textes du corpus, qui à ce moment-là était hypothétique, hein, puisque j'avais pas de corpus, dans le but donc d'en étudier les proximités. Et ma deuxième piste méthodologique, c'était donc de recueillir des textes qui allaient présenter un rapport avec les normes de l'éditorial le plus variable possible, avec pour objectif de faire croiser des textes qui allaient être proches des normes et des textes beaucoup plus éloignés, hein, pour décrire, bah, du coup, ce que j'appelle la protéiformité de l'éditorial, ce qui est mon objet de recherche. Donc, très rapidement, hein, un éditorial, pour faire écho aux critères de sélection que je vais vous expliquer après, un éditorial, c'est un texte à la structure argumentative. C'est un texte qui est plutôt effacé au niveau de la subjectivation. On va effacer les pronoms tels que je, tu et vous, hein, pour, voilà, pour faire passer une certaine objectivité. Et le troisième grand critère qu'on retrouve, c'est souvent que le texte il est basé sur des thèmes centraux de l'actualité, donc souvent sociétaux, politiques, etc., mais qui sont vraiment qui occupent le devant de la scène, si on peut dire. Donc je partais du postulat général vis-à-vis de ces critères. Que ben, le genre de l'éditorial, il est plutôt protéiforme, parce qu'on va retrouver des textes finalement qui font varier, hein, ces caractéristiques, là, celles que je viens de vous, enfin, que je viens de t'énoncer. Du coup, pour répondre à ce postulat, mon idée générale, c'était celle de comparer les éditoriaux de la revue que je connaissais, que j'avais étudiée en mémoire, celle de la revue de Roumanie francophone, avec ceux d'un autre journal francophone. Dans le but, en fait, d'avoir un corpus assez conséquent, parce que la revue de Roumanie était trop restreinte au niveau du nombre d'éditoriaux. Donc c'est ce qui a motivé le besoin de comparaison. Donc à partir de là, ma piste méthodologique, c'était tout simplement de lire beaucoup d'éditoriaux qui allaient émaner de nombreux territoires francophones, hein, c'est-à-dire mondialement, avec une prépondérance, parce que c'est des espaces qui m'intéressent, en Europe de l'Est, en Afrique et au Québec. Donc, de ces recherches et de ces lectures très longues, j'ai ressorti deux journaux. Donc, la revue roumaine que j'ai étudiée pour mon mémoire parce que j'avais défini déjà que les textes étaient très intéressants, avec le quotidien québécois Le Devoir. Donc, c'est les deux journaux qui sont, on va dire, sortis. À la suite de ça, maintenant que j'avais les journaux devant moi, il fallait que je construise le corpus, c'est-à-dire que je sorte les textes que j'allais étudier clairement. Donc, il a fallu sélectionner les textes et décider comment les sélectionner. J'ai donc essayé d'établir des critères pour sélectionner des textes, des critères qui allaient me permettre de sélectionner rapidement et efficacement, on va dire, les textes. Du coup, je suis parti des critères que je vous ai énoncés tout à l'heure. Vu que l'éditorial est plutôt argumentatif, j'ai sélectionné des textes aux structures autres qu'argumentatives. Donc, ça pouvait être descriptif, narratif, etc. Dans un deuxième temps, j'ai pris des textes avec des pronoms entre guillemets rares du genre, donc les pronoms personnels je, tu et vous, hein, qui soutiennent une certaine subjectivité qui est plutôt rare dans le genre. En troisième critère, j'ai pris des textes qui allaient traiter des sujets qui ne sont pas centraux dans l'actualité, parce que l'éditorial traite normalement de sujets vraiment centraux. Et enfin, un quatrième critère qui était celui de sélectionner des textes qui allaient directement en fait ressembler à d'autres genres pour alimenter donc la protéiformité de manière assez logique. Et une dernière piste de méthodologie, c'était celle de rechercher un courant de recherche, un courant théorique en fait qui allait supporter hein, cette ambition. Parce qu'il fallait que ça soit supporté de manière théorique pour être valable finalement. Et à force de recherche, à force de creuser la littérature, j'ai trouvé ma méthode qui est celle de l'analyse de discours contrastive. Donc c'est un courant de recherche qui a été développé par plusieurs auteurs, mais surtout par Patricia von Munchau. Et en fait, elle propose d'étudier les manifestations d'un genre de texte, pour moi l'éditorial, dans des communautés, ce qu'elle appelle socio-discursives différentes, ce qui est bien le cas avec le Québec et la Roumanie qui ont le français en partage, mais finalement qui ont un environnement culturel quand même assez hétérogène. Et ensuite, elle dit qu'il faut étudier les textes sur les plans de la structure, de l'énonciation et du sens, ce qui rejoint finalement point pour point les critères de sélection que j'avais définis en lien avec la définition du genre. Donc ça, c'était voilà un petit peu pour répondre à ta question, les débuts de la recherche, les pistes majeures.
Et donc, si j'ai bien compris sur cette dernière piste, on va dire théorique, cette analyse contrastive, est-ce que tu as pu faire quelques hypothèses quant à une utilisation majoritaire d'un certain type de discours par rapport à certaines revues dans certaines cultures, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas un lien finalement? Est-ce que ça a pu se vérifier
Alors, au tout début, c'était très nébuleux, mais ce que j'ai remarqué, alors c'était les pistes vraiment, on va dire, très générales, hein, que j'ai précisé à l'heure qu'il est, mais c'était des pistes très générales. J'avais remarqué qu'il y avait certains environnements francophones qui allaient moins respecter les normes, et justement, je ne sais pas pourquoi, et c'est pourquoi, une des raisons pour lesquelles j'ai fait la recherche, notamment en Roumanie, avec un rapport aux normes un peu moins marqué. Tandis qu'au Québec, il va y avoir un rapport aux normes un petit peu plus développé dans un respect de ce qu'on attend d'un éditorial. Et donc ça se remarquait dans les textes parce que les deux corpus, je vais peut-être avoir l'occasion d'en parler après, mais les deux corpus, ils ont un rapport avec les normes très différent puisque au Québec, ils sont vraiment plus proches de ce qu'on attend de l'éditorial. Tandis qu'en Roumanie, c'est vraiment pour 4 textes sur 5, ça va être vraiment hors des critères, presque tout ce que j'ai dit depuis le début, quoi.
Oui, une certaine orthodoxie, si on peut dire.
Exactement.
Eh bien, on peut maintenant passer au point de tension, au blocage que tu as éventuellement rencontré. Il y a pu avoir des problèmes techniques que tu as dû surmonter. Est-ce qu'il y a aussi cette question des affects, de ton engagement personnel, et on sait que faire une thèse sur le plan de la motivation, c'est toujours un peu parfois en dents de scie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc voilà, je te laisse éventuellement développer sur.
Alors, oui, en effet, il y a eu de nombreux blocages. Il y a eu vraiment de nombreux blocages, de nombreuses difficultés. Donc, jusque-là, tout ce que j'ai dit jusque-là, ça montre que la recherche, jusqu'à ce point-là, hein, finalement, dans la création du corpus, etc., ça s'est plutôt passé de manière assez fluide. C'est ce que j'ai ressenti, mais très vite, j'ai eu de nombreuses difficultés. D'abord, sur le choix des journaux, parce que je me suis vite demandé comment deux journaux pris dans l'entièreté d'un espace francophone qui est finalement mondial, enfin très très élargi, Je me suis très vite demandé comment deux journaux là-dedans, ça pourrait mener à des conclusions exhaustives et finalement recevables théoriquement. Ça a été un premier questionnement qui a un petit peu bloqué la recherche. Mais j'ai eu des réponses à mes questions assez vite avec mes directeurs de recherche. La plus grande difficulté, ça a été vraiment après sur le corpus, parce que il me fallait premièrement un critère temporel de sélection des textes que je voulais pertinent et qui allait souligner la protéiformité hein, que je veux étudier, étalée sur une période significative. Donc j'ai fait le choix de partir de l'année 2008 jusqu'à l'année 2018 pour les deux corpus, enfin pour les deux journaux. Mais la grande difficulté qui s'en est suivie, c'est le côté fastidieux de la lecture afin de retenir les textes à analyser, parce que tout simplement, il fallait que je lise le maximum de textes pour en faire un corpus. Et j'ai posé le critère d'avoir 50 éditoriaux pour chaque journal, et donc de l'année 2008 à l'année 2018, avec au moins par année 3 éditoriaux et au plus 6, hein, pour avoir une représentation égale par année, pour pas avoir une année surreprésentée et une autre laissée de côté. Donc, avec tous ces critères que je me suis posé pour un maximum de pertinence, la coordination des choix des textes dans la lecture fastidieuse, ça a été très, très difficile. Mais j'ai quand même réussi finalement à créer une première base de données avec beaucoup de textes, je crois qu'il y en avait entre 200 et 300. Et il a fallu que je relise tout pour décider que ce texte-là allait intégrer le corpus, celui-là n'allait pas l'intégrer, etc. Jusqu'à arriver à ce nombre de 50 éditoriaux pour chaque journal, 3 à 6 par an et par journal pour 100 éditoriaux en tout. Donc ce façonnage du corpus, dans le but de répondre au mieux à mon objet de recherche et la problématique, hein, la protéiformité du genre, ça induit vraiment, j'appuie dessus, une lecture, un tri, des choix d'inclusion ou d'exclusion de textes qui ont mené à de nombreuses remises en question, parce que tout simplement je me posais la question de la valeur de mon travail, de ça, comment dire, de son exhaustivité, de sa qualité, de son utilité intrinsèque, tout ça, hein, et puis ça a été vraiment une sorte de blocage. Parce qu'il a été long et fastidieux de sortir de cette spirale. Et je vais prendre un exemple, je pense qu'il va être assez parlant. C'est que, après quelques mois de recherche sur le corpus, je l'avais fixé une première fois. C'est-à-dire que j'avais mes 100 textes, mes 50 de chaque journal, 3 à 6 par journal et par an, et j'en avais débuté l'analyse. Et je me suis rendu compte pendant l'analyse que certains textes, en fait, que j'avais préalablement exclus, ben, il pouvait finalement être réinclus parce que il pouvait élargir théoriquement mon corpus et le rendre un petit peu plus pertinent. Donc je me suis dit, c'est pas trop tard, je vais le faire. J'ai donc décidé d'inclure ces textes au corpus. Sauf que, au nombre de 50, inclusion, ça veut dire également exclusion, donc les textes qui rentrent en font sortir d'autres. Et ça a été très difficile en fait à gérer parce qu'il a fallu que je m'occupe du nombre d'éditoriaux maximum et minimum, donc par année, 3 à 6, tout en gérant l'inclusion et l'exclusion, mais en gardant un corpus pertinent. Donc ça a été un travail de refonte, entre guillemets, de corpus très long, très fastidieux et très stressant, hein, puisque c'est vraiment le cœur de mon sujet et de ma recherche. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai, dernièrement, quand j'ai exclu ou inclus ces nouveaux textes, je me suis rendu compte, vu que j'avais déjà commencé l'analyse, que les textes exclus, eh ben, ils avaient participé au début de mon analyse. Donc finalement, il a fallu que je reparte presque à zéro. Et ça a été vraiment une grande source de stress, de culpabilité aussi, de ne pas avoir pensé à ça plus tôt, de ne pas avoir anticipé ces problèmes, etc. Ça a été vraiment, voilà, un point de blocage assez conséquent, et je pense le majoritaire dans mon travail.
Finalement, qu'est-ce qui faisait que tu étais obligé d'en avoir 50 et donc de faire entrer ou sortir? Qu'est-ce qui imposait de ne pas faire quelque chose de dynamique Et deuxième question aussi, comment est-ce que tu as créé des outils justement pour pallier à ce grand nombre de données, pour pouvoir les traiter, les organiser? Sur quels outils tu t'es appuyé Voilà.
Alors pour ta première question, au niveau du nombre d'éditoriaux, c'est vrai qu'a posteriori, j'y pense maintenant, c'était peut-être pas la meilleure manière, mais c'était des critères que j'avais fondés et auxquels j'ai pas voulu déroger. Alors je sais pas trop pourquoi. Je sais qu'il y a une raison quand même, c'est la volonté comment dire, de qualité, mais pas de qualité au sens littéral, mais la volonté qualitative de l'étude, dans le sens où je voulais à tout prix éviter tout ce qui était les statistiques, la mise en relation, voilà, numérale des données. C'était quelque chose que je voulais éviter. Donc, je pense que j'ai intégré on va dire, ce critère pour garder ce nombre de 50 textes pour chaque journal. Mais c'est vrai qu'à posteriori, je pense que rajouter d'autres textes sans éliminer ceux que j'avais déjà, ça aurait pu me faire gagner du temps. Mais voilà, ça a été malgré tout donc cette difficulté-là. Et pour ta deuxième question, c'est ce qui a été difficile aussi, c'est que vu que ça se veut, vu que je voulais faire une étude qualitative, j'ai pas utilisé d'outil spécial, si ce n'est les fichiers gardés dans des grands dossiers hein, pour pouvoir les retraiter. Mais je voulais vraiment avoir une approche entre guillemets, on va dire humaine des textes, c'est-à-dire dans la lecture et dans la compréhension vraiment pas du tout informatique des textes. Donc c'est pour ça que ça a vraiment rallongé parce que j'ai vraiment utilisé vraiment presque rien comme outil. C'était vraiment la lecture, de la prise de notes, de dire ce texte-là, il a ces caractéristiques-là, donc je le garde ou pas, etc. Donc j'ai vraiment pas trop, j'ai pas trop utilisé d'outils pour ça.
Oui, on pourrait dire en ce sens qu'une des difficultés que tu as rencontrées, c'était aussi imposée à toi-même pour avoir un travail qui pour toi
Tout à fait. Tout à fait, totalement.
l'idée, j'imagine, si je comprends bien, d'être à la fois dans le rôle du lecteur lambda qui achèterait le journal et puis celui du chercheur.
Exactement, exactement. En fait, je partais pour rebondir à cette observation qui est très pertinente, je trouve, c'est je voulais être un petit peu dans la position du lecteur parce que finalement, les définitions qu'on a de l'éditorial, les définitions sur lesquelles je me base pour faire mon corpus, c'est les définitions qui vont sortir des lecteurs lambda. Ils vont vous dire c'est un texte argumentatif, on voit pas souvent de subjectivité ou pas trop, et ils s'occupent on va dire pas des définitions, des thèmes centraux de l'actualité. Donc vraiment, je voulais partir de on va dire de ce postulat-là, et c'est pour ça que j'ai adopté cette méthode, j'imagine.
Donc pour terminer sur sur ce processus de construction, qu'est-ce qui a déclenché finalement quel a été le déclic qui a permis de finaliser le travail peut-être que ça il y a eu des réorientations, des changements de trajectoire. Voilà, qu'est-ce qui a déclenché la finalisation, la production de résultats?
Alors, c'est la prise en compte, premièrement, ces obstacles, en fait, parce que ils ont été très difficiles à vivre au niveau du travail scientifique, etc. Mais ils ont un avantage, c'est qu'ils m'ont permis de réorienter mon sujet et de modifier la suite de ma recherche, hein, pour plusieurs raisons. D'abord, juste, je veux appuyer sur un point, c'est que j'ai pas touché à mon objet de recherche, qui est la notion de protéiformité du genre, hein. Même si cette notion elle peut poser problème dans le cadre d'une exhaustivité de l'analyse, mais j'ai plutôt changé la manière de l'aborder sans l'abandonner. C'est-à-dire que l'objet, lui, n'a pas bougé, c'est juste ma manière de l'aborder qui aurait changé. Pour comment dire, contourner ces obstacles, j'ai gardé le même cadre théorique, mais j'ai décidé de le compléter avec plus de travaux sur l'éditorial, plus de travaux sur d'autres points qui me semblaient intéressants pour l'analyse et pour la renforcer. Et ce renforcement du cadre théorique, il a eu un avantage, c'est qu'il m'a permis de valider cette idée de rester sur la notion de protéiformité du genre, dans une manière seulement différente de l'aborder. Ça m'a permis d'avoir une certaine assurance sur le fait que le fondement théorique de mon travail était tout de même à peu près valable. Donc ces obstacles, ils m'ont ensuite recentré sur l'objectif que je m'étais fixé vis-à-vis de l'objet de ma recherche, qui est la protéiformité de l'éditorial, qui n'a pas bougé et c'est seulement ma manière de l'aborder qui a changé. Puisque l'un des éléments du déclic qui m'a permis de reprendre le travail de manière sereine, c'est celui de comprendre que l'analyse que j'allais mener, bah, elle se voulait pas du tout exhaustive ni quantitative, mais entièrement qualitative, puisque bah, je me suis rendu compte de manière naïve, parce que j'aurais dû y penser plus tôt, c'est que 100 éditoriaux à l'échelle de la manifestation du genre de l'éditorial dans la francophonie, c'est très limité, c'est vraiment très limité. Et je me suis même rendu compte, sur ce même chemin théorique, que le corpus que je présentais, c'est déjà un infime échantillon de la francophonie pour l'éditorial, mais c'est même un infime échantillon à l'échelle des journaux, parce que Rien que le quotidien québécois Le Devoir, il publie du lundi au samedi, si je ne me trompe pas, au moins un éditorial et parfois deux. Donc en fait, même 50 éditoriaux dans ce journal sur 10 ans, rien que ça, c'est même une infime partie de ce que eux présentent. Donc une fois que j'ai intégré ces éléments, je me suis senti plus libre dans mon analyse et dans mes attentes, parce que sans que ça remette en cause un certain travail d'objectivation des phénomènes, je pense que j'avais besoin d'intégrer et de mieux comprendre le concept d'échantillonnage de la recherche, parce que je me suis rendu compte que je l'avais un peu trop, on va dire, idéalisé, hein, dans une trop grande importance que je donnais, je crois, enfin, au problème de l'exhaustivité, même si c'est une notion qui est tout à fait centrale, bien évidemment, mais peut-être un petit peu moins pour moi, du coup. Donc cette prise de conscience vis-à-vis des échantillons, elle a été accompagnée de la rédaction d'un court chapitre qui a justifié ces éléments, qui étaient plutôt exploratoires, hein. Mais ce chapitre, il a eu la chance d'être validé par mes directeurs de recherche. Donc finalement, ça m'a beaucoup rassuré parce que je me suis rendu compte que ces obstacles, ben, j'avais plus ou moins réussi à les contourner. Et en fait, tout ça s'est fait, ça c'est, on va dire une parenthèse, ça s'est fait selon un gros travail de prise de distance vis-à-vis de la thèse et des éléments qu'il y a autour. Parce que il y a une métaphore que mes directeurs me disent souvent, c'est que si t'as le nez collé à quelque chose, en fait, tu en es très proche, mais finalement, paradoxalement, il est difficile de savoir ce sur quoi on a le nez, parce qu'on en est finalement trop proche. Et ils me disent que c'est un petit peu pareil pour la thèse et l'objet de recherche. C'est important de prendre de la distance pour paradoxalement mieux voir et prendre voilà, une vue surplombante pour mieux voir ce dont il est question. Et ça, au début, j'arrivais pas à le comprendre, et finalement, en prenant de la distance, j'ai finalement mieux compris. Donc, désormais, mon objet de recherche, ça reste le polymorphisme ou la protéiformité, hein, c'est la même chose, de l'éditorial en francophonie, mais axé sur un échantillon construit selon un jeu avec les normes de l'éditorial, dans l'utilisation des quatre critères que j'ai énoncés plus tôt, hein, et que je base sur les définitions de l'éditorial qui sont celles avancées dans les travaux de référence. Voilà. Et j'aimerais juste, avant de terminer, apporter un élément qui m'a semblé également très important, c'est l'encadrement de ma thèse. Je veux vraiment appuyer dessus. Ça a été une grande force, enfin, c'est toujours une grande force, puisque j'ai deux directeurs qui sont tous les deux linguistes, hein, mais qui ont des domaines ou des sous-domaines de la linguistique de prédilection différents. Et du coup, ils m'apportent une grande clarté théorique. Et ils ont pu tous les deux, chacun à leur manière, ils ont pu valider mon corpus. Ils ont pu m'alerter sur la notion d'échantillonnage et le fait que bah, ma recherche est vraiment essentiellement qualitative et pas quantitative, ce qui m'a permis de mieux intégrer ces concepts. Et ça a été, voilà, entre autres éléments, une grande force pour avancer, parce que ça m'a permis définitivement cette fois de clore mon corpus, hein, sans décider d'ajouter ou d'enlever des textes, en n'omettant pas en fait qu'il existe probablement d'autres textes, d'autres éditoriaux qui sont sûrement très pertinents à analyser dans le cadre de mon objet de recherche, mais que j'ai tout à fait le droit de ne pas analyser ou d'analyser plus tard. Et ça, c'est une idée, en fait, c'est vraiment, je pense, qui a changé. C'est une idée que comment dire, que je n'arrivais pas à accepter du tout au début de la recherche. Finalement, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux.
Oui, finalement, on pourrait dire que la thèse, c'est aussi le fruit de multiples compromis, d'abandon, peut-être d'un côté comment dire, approcher finalement cet objet.
Exactement. Oui, exactement. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas.
Je pense que beaucoup de thésards
Ah oui. Vive la même chose aussi, plus ou moins.
pense qu'on passe tous parce qu'on veut finalement réussir, on veut enfin réussir, on veut avoir des résultats qui soient
Totalement.
valables, ça fait partie.
Totalement. Totalement.
Pour ouvrir finalement ce podcast, quelle définition tu donnerais dans le cadre voilà, de ta thèse, de l'objet de recherche? Si je comprends bien, c'est plutôt dans le domaine linguistique, mais comme on le disait tout à l'heure, ça touche à la francophonie, donc il y a peut-être aussi une dimension culturelle. Alors, est-ce que ça déborde pas un peu aussi de la linguistique? Je sais pas comment on pourrait le dire, mais enfin voilà. Quelle définition, toi, tu donnerais à l'objet de recherche qui apparaît de façon en fait transversale thèse.
Tout à fait. Pour donner une définition, je dirais que si je pars de ma propre expérience, je dirais que j'ai construit cet objet de recherche dans une sorte de va-et-vient entre théorie et corpus, tout le temps, hein, qui est même aujourd'hui encore d'actualité, dans une sorte de modélisation, d'affinage, pour moi, hein, de la sélection des textes en lien avec la revue de littérature qui est fastidieuse, mais qui est utile parce que ça permet de mieux cerner les objectifs, de mieux cerner les contours de l'objet et de mieux finalement appréhender le travail de thèse. Donc, pour moi, l'objet de recherche, c'est un peu le choix de, on va dire, de quelque chose, d'un phénomène, un élément, je suis volontairement vague sur ça, hein, qui va être plus ou moins spécifique, mais que je pense au début qu'on veut analyser, qu'on a envie d'analyser, et qui, par conséquent, sur lequel on va appuyer une revue de littérature. On va lire les travaux qui sont déjà réalisés pour le façonner, le rendre pertinent, vérifier l'utilité, hein, de l'étudier. Et donc, je conçois l'objet de recherche un peu comme le dit le sociologue d'Avalon, comme une sorte de manifestation de quelque chose que le chercheur a la volonté d'analyser et qu'il doit passer au filtre de la revue de littérature et de la récupération des données, de la récupération, de l'exploration, en lien avec le sujet ou l'objet, hein, pour l'affiner, le rendre analysable. Si jamais j'essaie d'appliquer cette définition à la linguistique, et pour moi la linguistique du texte dans la presse francophone, je dirais que l'objet de recherche, c'était à la base l'éditorial francophone, donc quelque chose de très large, et l'exploration des données et la revue de littérature, la mise en relation de tous ces éléments, ça m'a permis de l'affiner en la protéiformité de l'éditorial francophone. Donc je suis passé de l'éditorial en tant que grand sujet, et même la francophonie en tant que grand sujet, à l'affinage, on va dire, l'affinage perpétuel de l'objet pour arriver aujourd'hui à l'objet central qui est la protéiformité de l'éditorial. Donc, en fait, je conçois l'objet, comme j'ai essayé de le montrer, que c'est quelque chose de mouvant pour moi qui va se façonner au gré des ambitions du chercheur, des travaux qui sont déjà réalisés dans le domaine, dans le rapport qu'on a aux données qu'on peut rencontrer sur le terrain, etc. Et j'aimerais juste, ça c'est un élément qui me semble important, j'aimerais ajouter le trait, on va dire, le trait de la volonté novatrice qu'on veut avoir dans un objet de recherche. Parce que généralement, on a envie, quand on étudie quelque chose de manière scientifique, on a envie que il se démarque des autres. Et comme tu disais tout à l'heure, on a envie plus ou moins de réussir, c'est logique. Donc on a envie que notre objet de recherche, il soit, voilà, il se démarque, il soit un peu nouveau. Donc cette volonté, on va dire, entre guillemets, novatrice, elle me semble importante à prendre en compte parce que ça fait partie pour moi de la définition de l'objet de recherche. Parce que tout simplement, et c'est un petit peu ce qui caractérise la science en général, hein, soit on veut faire la lumière sur quelque chose de déjà connu, mais l'éclairer, on va dire, autrement, soit on veut tout simplement analyser quelque chose de nouveau. Et la plupart du temps, on veut que ce quelque chose de nouveau, eh bien, on veut qu'il se démarque, on veut l'éclairer d'une nouvelle manière. Voilà en gros la définition que je donnerais de l'objet de recherche.
Oui, finalement, on pourrait dire que c'est une construction originale, quoi,
Tout à fait.
Finalement ces compromis qui sont singuliers, chacun a son parcours de thèse, et puis s'insérer dans une communauté de chercheurs avec quelque chose qui soit partageable, qui s'articule finalement.
Exactement. Total.
On arrive à la fin de ce podcast. C'était fort intéressant, voilà, d'échanger.
Pour moi aussi, pour moi aussi.
Que ça sera utile à d'autres doctorants qui commencent ou qui sont même à la fin de leur recherche. Bonne journée à tous et voilà, à très bientôt, Valentin.
Bonne journée à toi, Hugo, et merci encore.